L'actualité des Alpes du Sud est donc cette question. Les juges du tribunal correctionnel de Lyon vont-ils condamner Jean-Marie Bernard ?
Le président du département des Hautes-Alpes va connaître aujourd'hui le délibéré du procès de décembre dernier. Le dévoluard est accusé de favoritisme, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics. Le parquet avait requis à son encontre 15 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende ainsi que 3 ans d'inéligibilité.
Il n'y a pas de désert culturel en France, ce sont les mots prononcés par la ministre de la Culture.
Rachida Dati était dans les Hautes-Alpes hier et son message était clair, les territoires ruraux sont riches d'un point de vue culturel.
Et c'est une ancienne Premier ministre attendue à Manosque aujourd'hui.
Elisabeth Borne, désormais ministre d'État et de l'Éducation nationale, doit inaugurer le lycée Louis-Martin Brett dans la cité Jean Giono. Près de 30 millions d'euros ont été investis dans la rénovation de l'établissement, une rénovation qui a duré 3 ans.
Une application pour prévenir ses voisins en cas d'événements anormaux.
La commune de Digne-les-Bains a rejoint il y a près d'un an le dispositif voisin vigilant et solidaire. L'objectif est désormais que ce dispositif se déploie beaucoup plus au sein de la population jusqu'à se retrouver directement sur les téléphones.
Et puis le sport, la Ligue Magnus, c'est une victoire obligatoire pour les Rapaces de Gap ce soir.
Si les Gapensais perdent à Cergy et que Anglet s'impose contre les Diables Rouges de Briançon au bout de 60 minutes, les Rapaces seront mathématiquement derniers de ces play-downs 2024-2025. Coup d'envoi des rencontres à 20h30. Mais avant, la vigilance avalanche se poursuit sur les Alpes du Sud. Selon Météo France ce matin, tous les massifs sont classés en risque 3 sur 5 pour la journée. Les skieurs et autres adeptes des sports de montagne sont appelés à la prudence.
Ce vendredi va-t-il marquer la fin de carrière politique de Jean-Marie Bernard ?
Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes est à nouveau appelé devant le tribunal correctionnel de Lyon aujourd'hui pour le délibérer. En décembre dernier, l'élu s'était retrouvé face au juge pendant près de 11 heures accusé de faits de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics dans le dossier de 4 marchés publics du département et des primes accordées au sein du centre de gestion de la fonction publique. Le parquet avait requis à l'époque à son encontre 15 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende ainsi que 3 ans d'inéligibilité. 3 autres prévenus comparaissent aux côtés du président. Pour le dossier des marchés publics, Jérôme Choly, le directeur général des services du département, et Fabrice Hurt, son ancien directeur de cabinet. Pour celui du centre de gestion, l'ancien responsable Catherine Reboul. Le procureur avait requis à leur encontre entre 6 et 10 mois de prison avec sursis, entre 1 500 et 5 000 euros d'amende et des peines d'inéligibilité. Le délibéré est attendu vers 9h30, c'est bien évidemment à suivre sur Alpe 1.
Et il n'y a pas de désert culturel en France, des mots prononcés par la ministre de la Culture.
Rachida Dati était en déplacement dans les Hautes-Alpes hier et son message était clair, les territoires ruraux sont riches d'un point de vue culturel et ils ne sont pas oubliés par l'État. Preuve en est pour Rachida Dati, cette inauguration après la réhabilitation des archives départementales à Gap, un dossier pour lequel l'État s'était engagé financièrement. Reportage d'Aurore Valori.
À Gap, vous le savez déjà, nous sommes dans le Dauphiné avec ces dauphins que vous voyez sur le cimier et le harnachement de Humbert II de Dauphiné, le dernier.
C'est au cœur des archives départementales réhabilitées que la ministre de la Culture a débuté son déplacement dans les Hautes-Alpes. 12 millions d'euros ont été investis par le département, 1,5 million ont été apportés par l'État dans ce dossier. Les archives des Hautes-Alpes qui ont été le premier service à proposer l'envoi de documents numérisés, des ressources qui peuvent ainsi être exploitées par des chercheurs de toute la France. 1 200 000 images sont consultables sur le site internet des archives. 10% des fonds sur les 14 kilomètres sont numérisés. Un travail salué par la ministre qui a aussi voulu passer un message.
2024, pas un euro n'a manqué sur les territoires. J'ai tenu mon engagement. 2025, c'est vrai qu'on est parti, on partait de loin. S'agissant du budget de la culture, on a eu des débats et mon budget a été maintenu et même augmenté s'agissant par exemple du spectacle vivant. Près de 300 millions d'euros pour le patrimoine grâce à un amendement gouvernemental. Donc sur la culture, dans ses fondamentaux, le budget, les financements sont maintenus. Et l'État maintient son engagement et va même au-delà. Se désengager coûte plus cher que de maintenir un engagement. Et donc il faut maintenir l'engagement et l'amplifier.
Un engagement de l'État qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le maire de Gap, Roger Didier, a profité de ce déplacement pour présenter le projet de rénovation de la médiathèque et du théâtre La Passerelle.
Je la remercie très sincèrement de ce qu'elle pourra faire pour nous, dans la mesure où ce projet est un gros projet et qui qui traîne un petit peu. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire que j'étais pressé. Voilà.
Rachida Dati qui s'est ensuite rendue en préfecture pour signer deux conventions, pays d'art et d'histoire, entre le ministère de la Culture et les communautés de communes du Guiès, Trois-Quéras et de Serre-Ponçon. Un signal fort pour Chantal Emeoud, maire d'Embrun et présidente de la communauté de communes de Serre-Ponçon.
C'est la première fois, je crois, qu'un label pays d'art et d'histoire est signé en présence d'un ministre de la Culture. Ça prouve aussi son intérêt de la reconnaissance de la ruralité et de l'importance pour elle et pour le ministère de la Culture de soutenir la culture en milieu rural et en milieu montagnard. Parce que souvent, nos territoires qui sont éloignés de milieux urbains peuvent souffrir d'un certain enclavement et un peu d'une mise à l'écart.
La ministre qui a visité ce jeudi après-midi la cinémathèque d'images de Montagne de Gap avant de se rendre à Tallard pour échanger autour de la transhumance et du pastoralisme.
Merci Aurore. Et d'une ministre à une autre, c'est aujourd'hui Elisabeth Borne qui est attendue à Manosque.
L'ancienne première ministre, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est attendue dans le lycée professionnel Louis-Martin Brett. Le bâtiment a été rénové à hauteur de 30 millions d'euros, dont un tiers a été financé par l'État. Une somme qui a permis en 3 ans de rénover l'internat de 110 places et de construire un nouveau bâtiment qui accueille la demi-pension et les services administratifs de l'établissement. Dans ce bâtiment, les élèves suivent des formations dans le secteur du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie et du tertiaire.
Le transfert des compétences eau et assainissement des communes aux communautés de communes ne sera plus obligatoire.
La proposition de loi a été adoptée hier par l'Assemblée nationale à une très large majorité, 113 députés pour et 3 contre. Elle était défendue à l'Assemblée nationale hier par Marie-Josée Allemand, la députée Alpine, et au Sénat depuis de longs mois par Jean-Michel Arnaud. Les communes auront désormais la liberté de choisir de les transférer au niveau intercommunal, à un syndicat mixte ou de conserver ses compétences. C'est ce qu'explique le sénateur Haut-Alpin. Cela concerne dans notre département 145 communes sur les 162. La loi NOTRe de 2015 prévoyait le transfert de ses compétences au 1er janvier 2026. L'ancien Premier ministre Michel Barnier avait annoncé en octobre dernier revenir sur cette obligation. Le texte voté hier sera finalisé lors d'une commission mixte paritaire prévue dans les prochains jours.
On parle maintenant de cette application qui permet en fait de prévenir ses voisins en cas d'événements anormaux.
La commune de Digne-les-Bains a rejoint il y a près d'un an le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires. Il doit permettre de prévenir les incivilités, d'alerter les forces de l'ordre en cas d'actes de délinquance. 4 millions de Français seraient couverts par ce dispositif. 1000 communes françaises sont adhérentes et parmi elles, la ville-préfecture des Alpes-de-Haute-Provence qui permet à sa police municipale d'être reliée directement au dispositif. L'objectif est désormais que ce dispositif se déploie beaucoup plus au sein de la commune. Il suffit en quelques clics sur son téléphone pour signaler, explique Bernard Perry, maire adjoint délégué à la sécurité et la tranquillité publique et à la prévention de la délinquance.
La sécurité, c'est l'affaire de tous. Voisin vigilant, ça veut dire que tout le monde peut participer à cette action de sécurité en téléchargeant l'application Voisin vigilant et solidaire. Le regard de chacun va pouvoir, à travers une application, signaler des faits qui lui semblent anormaux dans la ville. Ça peut être à un moment donné un délit de sécurité routière, ça peut être une interrogation sur des gens qui sont en train de rentrer dans une propriété qui a l'air d'être fermée. L'idée, c'est de bien être dans le cadre de « on donne des informations ». Ces informations vont remonter à la police municipale. La police municipale va probablement et certainement venir très rapidement vérifier.
Comment éviter que ce dispositif ne crée des tensions entre voisins ou des dérives, des surveillances excessives, des dénonciations injustifiées?
Alors le dispositif aujourd'hui, et c'est pour ça que la ville en gros s'est abonnée, c'est Voisins Vigilants et Solidaires, c'est surveiller et mesurer en termes de propos. C'est-à-dire qu'il y a une modération quant aux propos. Il est hors de question d'utiliser ce système à un moment donné pour de la délation ou des propos visant d'autres personnes de façon gratuite. La police, je vous le rappelle, va maîtriser en gros tout ce qui remonte.
Des propos recueillis par notre correspondant sur place, Michel Bonnefoy. La commune rappelle qu'en cas de délit, il faut composer le 17. Selon les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, ce service Voisins Vigilants et Solidaires a permis au niveau national de faire baisser de 20 à 40% le nombre de cambriolages dans les quartiers. Pour devenir voisin vigilant, vous pouvez vous rendre sur le site de l'organisation et saisir votre adresse postale et mail.
Une mobilisation contre les dérives administratives de la préfecture des Hautes-Alpes prévue à 11h.
Trois organisations, la cantine, les chats qui trouillent, le collectif réfugiés aux Alpins et tous migrants se rassemblent devant le bâtiment préfectoral à Gap. Elles entendent alerter la population sur les dérives administratives de la préfecture. Les trois organisations dénoncent la multiplication des obligations de quitter le territoire français, les OQTF délivrées de manière illégale et inacceptable. Une politique de harcèlement administratif qui touche, selon les organisations, des personnes déjà fragilisées par des années de précarité. Dans les Hautes-Alpes, pour ces trois associations, un grand nombre d'OQTF est entaché d'irrégularité et retoqué ensuite par le tribunal administratif.
Et ça va être très serré pour les Rapaces de Gap ce soir lors de l'avant-dernier match de poule de maintien en Ligue Magnus.
Les Gapensais, dernier des play-downs et menacés d'une relégation en Division 1 l'an prochain, sont dans la quasi-obligation de gagner ce soir avec les 3 points. Le sort de leur saison se joue en grande partie à Cergy-Pontoise à partir de 20h30. C'est bien simple, si les Rapaces perdent et que Anglette gagne dans le même temps à domicile contre les Diables Rouges de Briançon, la dernière place reviendra mathématiquement aux Rapaces, et ce, malgré la dernière journée des play-downs prévue la semaine prochaine.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.